Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. En fait, le débat ce soir, c'est plutôt une émission spéciale pour évoquer un personnage à la fois omniprésent et mystérieux, puisqu'il s'agit du Kaiser de la mode, Karl Lagerfeld. Il est mort aujourd'hui, près de Paris, à un âge que je serais bien en mal de vous donner avec une certitude absolue, puisqu'il faisait partie du mystère que le directeur artistique de Chanel, Fendi et évidemment Lagerfeld aimait entretenir sur sa personne. Styliste donc, mais aussi photographe, immédiatement reconnaissable à ses cheveux gris portés en catogan, ses lunettes noires et ses cols montants à mi-donnée. Karl Lagerfeld était un homme public, mais aussi assez secret. Qui était Karl Lagerfeld? C'est la question du jour. Et pour en parler, nous avons un invité avec nous en studio, peut-être en attendant un deuxième, Pascal Mourier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes producteur des magazines mode sur France 24, qui est la chaîne d'information internationale du groupe France Média Monde, dont fait partie RFI. Karl Lagerfeld, c'était une véritable star, un excellent client pour les médias et notamment la télévision. Mais finalement, on en sait assez peu sur lui. Il était assez secret. Qui était Karl Lagerfeld, Pascal Mourier?
Oh, c'est très compliqué de résumer en quelques mots qui était Karl Lagerfeld. Alors, on connaît tous l'icône internationale. On connaît tous son visage. Vous avez cité ces éléments d'apparence vestimentaire. Au-delà de ça, c'est-à-dire au-delà d'une image qui a été totalement marketée et que lui-même a marketée, Karl Lagerfeld était d'abord un homme extrêmement généreux. Et ensuite, c'est un homme qui regardait la société et qui voyait comment la société évoluait. Alors, un seul exemple peut-être,
oui.
En 2013, en France, c'est le débat sur le mariage homosexuel. Dans les défilés de haute couture, il y a, qui sont extrêmement codifiés, parce que les défilés de haute couture commencent par les robes de cocktail, les robes de bal, enfin tout ce qu'on connaît en termes d'image, et les défilés de haute couture se terminent par une robe de mariée. En 2013, en plein débat sur le mariage homosexuel, Karl Lagerfeld, tout simplement, eh bien, fait défiler deux femmes en robe de mariée.
Laurent Alain Caron nous a rejoint. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste. Merci à France 2, auteur-réalisateur de documentaires pour l'émission Un jour, un destin, dont celui consacré à Karl Lagerfeld. Être et paraître, auteur également de Le mystère Karl Lagerfeld, le mystère Lagerfeld, aux éditions Fayard, paru cette année. Karl Lagerfeld, c'est un mystère, pourquoi ?
C'est un mystère parce que quand on le voit, il y a une question qui résiste. On se dit, qui est-il vraiment ? Et finalement, on n'arrive pas à répondre à cette question. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a une apparence comme ça extrêmement rigide, il y a un personnage très clairement, et on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Lui-même a fabriqué cette espèce de légende qu'il y a autour de lui, cette espèce d'aura, lui-même a joué avec le mystère. C'est un mystère fabriqué, et on a forcément envie d'aller voir de l'autre côté.
J'allais vous parler du photographe Karl Lagerfeld, parce que dans la photo, on met forcément en avant son regard, donc une partie de soi. On est quand même obligé un petit peu de se livrer, Pascal Mourier, non ?
On est totalement obligé de se livrer. Alors, Karl Lagerfeld, en tant que photographe, était quelqu'un d'extrêmement pointilleux, extrêmement méticuleux. C'est-à-dire, Karl Lagerfeld, on le sait, c'est un bosseur, c'est-à-dire qu'il a toujours travaillé. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a passé les années 50, 60, 70, 80, 90, 2000, les années Palace, les années Sida. C'est un homme qui ne buvait pas,
oui,
très rarement, un verre de très grand cru, beaucoup de boissons gazeuses de type américaine. Mmh. Il ne fumait pas et en fait, il travaillait tout le temps.
Oui, et il dit dans les années 70, finalement, j'ai pas vu ces années, je les ai vues derrière une vitre. C'est-à-dire que tout le monde se droguait, tout le monde fumait, c'était des années d'une liberté incroyable. Et lui les regardait comme ça,
il
de
l'extérieur. Il n'a pas participé à la fête, c'est ce que vous dites.
Il n'a pas participé à la fête à sa manière, il y participait quand même.
Mmh. Il regardait la fête.
Il regardait la fête.
C'était un homme de spectacle, hein, les défilés transformés en grands shows dans des endroits inattendus. C'est peut-être pas le premier et pas le seul, mais il les personnifiait, Pascal Mourier.
Il a réussi, au Grand Palais, à installer une tour Eiffel, une fusée, un aéroport, un avion. Dernièrement, au dernier défilé haute couture, c'était une villa romaine.
Ouais.
Alors, tout le monde s'est demandé, pourquoi une villa romaine, en fait? Qu'est-ce que ça fait là? Qu'est-ce que c'est, ce symbole? En fait, derrière ce symbole de la villa romaine, c'était, en fait, une villa bourgeoise du XVIIIe siècle où étaient installés les marchands drapiers, tisserands. À cette époque-là, l'Italie était la plaque tournante du tissu. Et en fait, chez Lagerfeld, dès qu'on creuse, dès qu'on va voir derrière,
il y a toujours une référence,
une véritable référence avec une envie de bouleverser la société. Il a repris tous les codes Chanel, il a repris ce que faisait Coco Chanel, Gabrielle Chanel. Mmh. Et c'était quoi? C'était de prendre des tissus pour hommes assez durs pour les mettre sur les corps féminins. Et lui, il a modernisé ça. Et puis tout d'un coup, un jour, au défi de haute couture, vous voyez ces créatures absolument merveilleuses, ces mannequins avec des robes de haute couture, elles sont chaussées de quoi? De baskets.
Ouais.
Laurent Alencar, on sait quoi la patte Lagerfeld? Est-ce que c'est le changement permanent, finalement, l'innovation,
c'est ça. Je crois qu'il y a plus, on dit souvent, Yves Saint-Laurent, c'est le smoking, il y a comme ça des pièces identifiables. Car Lagerfeld, c'est beaucoup plus difficile.
Voilà, ça
arrive, exactement. Mm-hmm. C'est beaucoup plus difficile d'identifier des pièces. Par contre, en revanche, il y a une manière de faire, qui est d'aller dans le passé historique de la marque, d'en tirer la substantifique moelle de la marque et de l'actualiser. C'est ce qu'il disait souvent, citant Goethe, faire un meilleur avenir avec les éléments élargis du passé. C'est la phrase qu'il aimait citer. Et je crois que c'est vraiment ça, c'est une manière de rendre extrêmement actuel le passé de la marque.
Est-ce que, et je rebondis sur ce que vous disiez, hein, si on parle d'Yves Saint Laurent, on parle du smoking, on parle de la saharienne, voilà, il y a plusieurs, si on parle de Courrèges, bah, ce sera la mini-jupe. Est-ce qu'il reste un modèle iconique, un vêtement particulier dont on peut dire, ça, c'est Lagerfeld de Pascal Mourier?
Non, il n'y a pas un vêtement. Il n'y a pas un vêtement, il y a une façon, une manière d'entrevoir le vêtement et d'entrevoir surtout comment porter ce vêtement. Parce que c'est important, les vêtements, ce sont le vêtement, dès que vous le sortez de son porte-manteau, il commence à vivre. Un vêtement sur un porte-manteau n'a absolument aucun intérêt. Donc qui va s'habiller? Et surtout l'intérêt, c'est qui va se servir des créations de la maison Chanel, de la maison Fendi, de la marque Karl Lagerfeld. C'est-à-dire quel est cet héritage en fait? Et c'est ça l'intérêt.
Il n'avait pas son pareil pour capter l'esprit du temps. Il savait saisir ce qui allait marcher. Il devançait pratiquement tout le monde assez souvent. Hein,
oui, c'est-à-dire que Laurent Alencar. En fait, il avait des antennes pour capter l'air du temps et pour retranscrire ce qu'il voyait dans ses collections, dans ses dessins. Faut pas oublier qu'il dessinait tout le temps. Karl Lagerfeld, il est un des seuls à dessiner chaque modèle qui défilait sur les podiums. C'était devenu rare aujourd'hui.
Un boulimique du dessin et du travail.
Oui. Alors il disait tout le temps, j'arrache les pages de ma vie, mais aussi évidemment les pages de ses dessins, c'est-à-dire qu'on imagine le geste avec le bloc comme ça et les pages qui sont jetées à la poubelle. Il y avait cette espèce de boulimie comme ça créative chez lui tout seul dans son espace personnel chez lui. Il y avait comme ça un côté un petit peu presque comme dans une caverne, voilà.
Est-ce qu'il avait un côté où justement, bah, une fois qu'il avait fait le dessin, que ça partait en production, c'était fini pour lui? Est-ce qu'il avait l'esprit collectionneur de sa propre production, Pascal Mourier?
Non, il était, il le disait lui-même, je suis une nymphomane du travail. C'est-à-dire Lagerfeld, on l'imagine, pas de relations sexuelles, pas de drogue, pas d'alcool, une vie quasiment monastique. Et c'est vrai qu'il culpabilisait énormément de ne jamais produire assez de travail. Mmh. Alors que c'est vrai que c'est un bonhomme qui dormait que 4 heures par nuit.
Ouais, il fait partie de cette catégorie de gens, Laurent Alencaron, Karl Lagerfeld. Travail,
ah oui.
Très peu de sommeil. Enfin,
mais on ne sait pas comment il faisait, c'est-à-dire que c'était quand même 12 collections par an, Karl Lagerfeld, Fendi, Chanel, sa propre marque, plus des collaborations extérieures, c'était juste incroyable comment il faisait. On se pose la question, c'est ce qui m'a, moi, le plus étonné quand même chez lui. Hein.
Oui, voilà, il y a une collection automne-hiver, une collection printemps-été pour 3 marques différentes. Enfin, comment est-ce qu'on peut arriver à...
C'est une somme de travail colossale. Alors, Lagerfeld ne travaillait pas tout seul. C'est-à-dire que chez Fendi, chez toutes les marques où il a œuvré, en fait, il y avait des dizaines, voire des centaines de personnes qui travaillaient, non pas pour lui, mais avec lui. Ça, cette distinction est extrêmement importante. On dit aujourd'hui que c'est une icône de la mode parce que il a réussi aussi à travailler avec le groupe Chanel, qui est un des 3 principaux groupes de luxe mondiaux, avec le groupe LVMH, parce qu'il signait les collections Fendi, extrêmement copain avec Bernard Arnault, extrêmement copain avec beaucoup de politiques, beaucoup d'économistes, beaucoup de personnes de la finance. Il a réussi comme ça à lui-même devenir sa propre marque pour justement naviguer entre chacune et essayer de changer la société.
Une liberté incroyable en fait, cette espèce de côté mercenaire qu'il avait de travailler avec plein de marques différentes, c'est une liberté incroyable.
Parce qu'en plus de faire des collections pour les 3 maisons dont il était le directeur artistique, il a des collaborations avec d'autres marques à l'extérieur, notamment en prêt-à-porter. On se souvient qu'il a dessiné une collection complète pour H&M.
Oui.
Il a travaillé avec
tout
le monde.
Alors ça, c'était vraiment casser les codes.
Ça, c'était fou.
Ouais.
Quand même incroyable.
Casser les codes, c'est-à-dire tout d'un coup se retrouver à la tête d'une collection de fast fashion qui est totalement l'extrême inverse de la haute couture ou du prêt-à-porter. Justement, c'était une entreprise de, entre guillemets bien sûr, démocratisation de la mode. C'est-à-dire que la mode ne doit pas rester l'apanage de certains grands groupes, la mode doit pouvoir être utilisée par tous. La mode est en fait, à notre niveau, à nous, ici, qui ne sommes pas, nous sommes pas des acheteurs de haute couture, ni même de prêt-à-porter, j'imagine, puisque nous n'avons tout simplement pas le budget pour, mais de faire en sorte de savoir que c'est un outil de relations sociales.
C'est ce qui va faire. C'est ce qui va faire vraiment cette collaboration avec H&M. C'est ce qui va le rendre populaire. C'est-à-dire que dans les années 2000, il devient vraiment le dandy populaire, accessible pour tout le monde.
Ouais, ce que vous disiez, Pascal Mourier, en fait, c'est que c'était une déclaration presque politique à chaque fois qu'il sortait son crayon.
La mode est politique. Alors, évidemment, on ne va pas dire la mode est politique parce que tout de suite, on va se dire, oh là là, mais c'est quoi ces intellos qui vont parler de... Non, pas du tout. La mode est politique parce que la mode organise la vie dans la cité, organise la vie dans la société, organise les relations entre les hommes et les femmes, les femmes et les femmes, les hommes et les hommes. C'est vrai qu'aujourd'hui, qui va remplacer Karl Lagerfeld? A priori, c'est Virginie Viard, qui est la directrice du studio avec laquelle Karl a travaillé pendant une trentaine d'années. Aujourd'hui, c'est très important pour un grand groupe comme Chanel de faire ce qu'a fait Dior il y a quelques années, c'est-à-dire de placer une femme à la tête d'une collection, à la tête d'une industrie.
Il correspond en fait à plusieurs décennies, 4, 40, 50 ans, à une époque notamment où celle où la mode est devenue son propre objet, son propre centre d'intérêt, où on s'intéressait moins aux vêtements qu'à la mode elle-même, et il est devenu l'incarnation de cette mode-là, Laurent Alain Caron, Karl Lagerfeld.
Oui, il a traversé les époques, il a surfé sur les époques, il a toujours été au devant de l'air du temps, il a incarné l'air du temps et il a cette faculté incroyable de se renouveler, de se remettre en question. Il dit tout le temps pas de crédit sur le passé. À chaque fin d'une collection, il dit oui, c'est très bien, mais en fait, ça ne me donne aucune certitude sur la collection d'après. Donc il y avait toujours cette remise en question perpétuelle de lui-même qui lui permettait de se renouveler.
Pascal Mourier, sur cet aspect, effectivement, du moment charnière où la mode est devenue un phénomène de société, où elle a engendré des stars, il était là, c'est lui qui les a poussés un peu.
Il y a eu plusieurs périodes, c'est-à-dire dans les années 80, ça a été tout d'un coup le règne des top modèles.
C'est ça.
Alors les top modèles ont remplacé en fait comme identificateur pour la société les actrices de Hollywood. Comment savoir ce qui se passe de l'autre côté de la Terre? On va au cinéma. Ensuite, dans les années 80, on regarde la télé. Et puis on regarde la mode. Et puis tout d'un coup, on commence à connaître des mannequins. À partir du moment où Karl Lagerfeld propulse Inès de la Fressange, une belle et grande bourgeoise parisienne, pouvant citer Kant dans le texte, il prend parti, justement. Et il demande en plus aux mannequins de passer sur le podium, de rigoler, de jouer avec la presse, de jouer avec les acheteuses. Cette époque-là est résolue. Aujourd'hui, quand vous voyez des mannequins sur un podium, vous vous emmerdez. Je préfère dire clairement ce mot. Elles font la tronche, elles ne rigolent pas. Ce sont aujourd'hui des porte-manteaux. Lagerfeld, lui, aujourd'hui, il fait sourire les mannequins, il leur dit d'aller fort. C'est lui qui a inventé les défilés de 12 minutes. Avant, chez Saint-Laurent, on pouvait avoir des 130, 140, 150, 160 modèles. Vous imaginez?
Laurent Alain Caron, il y a des mannequins qui sont devenus des stars, qui lui doivent au moins en partie leur carrière.
Oui, il y en a beaucoup, toutes, en fait. Mais Inès de la Fressange, c'est vraiment l'exemple le plus typique. C'est-à-dire que Inès, il la découvre et il dit, voilà, il dit ça pouvait pas être quelqu'un d'autre. Il en fait la parisienne, l'incarnation de la parisienne du style Chanel. C'est elle qui va incarner Chanel au début des années 80. C'est quand même pas rien. Et avec cette aussi, ce qui est drôle dans leur histoire, dans leur collaboration, c'est qu'à un moment donné, un peu comme une page qu'il arrache, il se sépare des gens. Il s'est séparé de Inès de la Fressange avec perte et fracas et avec des petits mots entre les deux qui se sont échangés. Mais c'est une belle histoire quand même. C'est quand
oui,
même une belle
il
histoire.
Disait, oui, si elle veut faire popote, qu'elle rentre à la maison.
Oui, en gros.
À ce sujet-là, d'ailleurs, il a toujours refusé les appels à faire défiler des mannequins qui ne sont pas parfaitement minces, voire maigres. Il l'assumait.
Alors, il l'assumait totalement, effectivement. Il n'a pas eu de prise de position pour le combat contre l'anorexie, alors que c'est vrai que ça a agité le système de la mode et la société pendant beaucoup d'années, et toujours aujourd'hui. Il est resté un petit peu en retrait, et c'est vrai que c'est petite tâche.
Ouais. Merci Pascal Mourier, merci à vous également Laurent Alain Caron d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Déborah Lepage à la coordination et à la réalisation aujourd'hui, Luna Timbal et Alice Ménard. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Tout de suite, direction Lyon pour le football et le 8e de finale aller de la Ligue des Champions entre l'Olympique Lyonnais et le FC Barcelone. Bonjour chez vous.